Pascal, c'est lui qui va nous apporter le message ce matin. Je pense qu'il a pas mal de choses à nous dire. Je vais simplement prier pour lui. On lui dit, bon, c'est pas une routine d'habitude. Mais Seigneur, Seigneur, nous te bénissons. Parce que Seigneur, tu as donné à ton corps des hommes dons, Seigneur, pour l'édification du corps, pour le perfectionnement des saints. Je te remets Pascal, Seigneur, ton serviteur. C'est, Seigneur, le cœur que tu lui as donné pour toi, pour te servir. Je te prie ce matin, simplement, qu'il soit en pleine liberté, Seigneur, devant toi et devant ses frères. Amen.
Et à toutes. Je suis très heureux d'être au milieu de vous ce matin. C'est un grand honneur parce que j'ai été invité pour une grande circonstance. Et puis ça me fait surtout beaucoup de plaisir de voir cette église parce que je disais hier, je crois, on a connu Marie-Thérèse et Yves en Centrafrique, donc en 1988. Ça, c'est notre famille. Je vais tout de suite. Oui, tu peux laisser, hein, c'est bon. Donc, avec Fabienne est ici, c'est mon épouse, tu peux te lever. Voilà, donc nous sommes mariés depuis le siècle dernier. Donc, voilà, 33 ans. Donc, on a 6 enfants, ils sont en bas. Il y en a 3 qui sont mariés, donc il y a les conjoints. Et puis, en haut, c'est les 7 petits-enfants. Voilà, pour l'instant, point de suspension. Et donc on est heureux. Ce matin, je me suis connecté sur Radio Nostalgie. Mets la suivante pour voir. 1996. Vous connaissez le monsieur à droite là? Donc ça, c'était chez nous en Centrafrique. Il y a quelques 20 ans en arrière. Ouais, c'est Yves. On déménageait, on allait partir du Centrafrique pour aller au Congo. Je vous expliquerai après notre itinéraire un petit peu. La suivante encore. Voilà, ça c'était le. Vous voyez, on était en 4x4 là-bas parce qu'il n'y avait pas de route goudronnée. Ça c'était notre maison, c'est Yves de dos. La suivante encore, là on va voir Yves et Marie-Thérèse. Voilà. Ils n'ont pas beaucoup changé. Hein. Voilà, ça c'était avec Marie-Claire, vous vous souvenez? C'était la femme de Barnabé. Toujours d'ailleurs. Voilà, un grand merci à vous. Et puis une dernière, ça c'était mon dernier jour au Centrafrique parce que Fabien n'était pas là. Et vous aviez prié pour nous à Bambari au culte. Tu es avec les pasteurs africains. Là. Voilà, c'était un petit flashback pour nous souvenir des bonnes années passées. Donc, avec Fabienne, on a été 18 ans en mission. On a été 18 ans en Afrique centrale. On s'est converti à peu près à la même époque. On s'est marié 3 ans plus tard. Et puis, la 6e année, on est parti. Il y a des centres africains ici? Ouais, des balades à Kouen, à Liti Jésus. Voilà. Donc, on a fait 10 ans en Centrafrique. Après, on est allé à Brazzaville, au Congo. Je ne sais pas s'il y a des Brazzavillois ici. Il y a une Brazzavilloise? Ah, Nzambe Apambulabino Nyoso. Voilà. Donc, ça, c'est du Lingala. Je pense que les Congolais de Kinshasa y comprennent. Puis, on a fini au Tchad, 6 ans. Il y a des Tchadiens, non? Peut-être? Non, il n'y a pas de Tchadiens. On a fait. Moi, je fais surtout de la direction d'école biblique, l'implantation d'église. Fabienne étant infirmière, on a mis en place un projet médical en Centrafrique. Et au Tchad, dans les écoles, j'étais responsable d'une ONG aussi qui était là dans l'implantation d'école en brousse. Voilà, on est rentré il y a 12 ans maintenant, 12 ans, c'est 12 ans et demi. Et on est implanté à Grenoble. Vous voyez où c'est? C'est au sud, sud-est. Je pensais qu'en Bretagne, il faisait toujours beau. Enfin, en tout cas, qu'il faisait moins chaud que chez nous, plus chaud que chez nous, mais je me rends compte que ça gèle bien, hein, c'est aussi froid que chez nous. Voilà, donc on est à Grenoble, je travaille une partie de mon temps dans l'église du Chandelier, qui est au centre de Grenoble, et puis je travaille aussi avec d'autres églises dans la région, et puis j'ai gardé une partie de mon travail en mission. Je vais retourner à Brazza là, dans 2 mois, et aussi vers l'Asie. Dieu nous a. Ce qui est dans notre cœur. Je vous explique, hein, ce qui est dans notre cœur, c'était vraiment de toucher les peuples non atteints. J'avais à peu près 3 mois de baptême, à peu près, hein, un dimanche matin à l'église à Grenoble, Le pasteur nous dit, ce matin, c'est un missionnaire qui va prêcher au culte. Bon, c'était une espèce rare que j'avais encore jamais vue. Et en fait, là, il y a un homme d'une soixantaine d'années qui a commencé à partager les expériences qu'il avait vécues dans les années 70, donc en Côte d'Ivoire, en particulier au Gabon, en Côte d'Ivoire. Et puis, il a prêché sur Matthieu 28, « Allez par toutes les nations ». Et plus je l'écoutais parler, plus ça vibrait dans mon cœur. Et à la fin, il s'est adressé aux jeunes. On était une église de 250 à peu près. Il y avait un grand groupe de jeunes. Et il a dit, je lance un défi aux jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes ce matin qui veulent se lever pour servir Dieu dans les larmes, la sueur et le sang? C'était ça l'appel. Les larmes, la sueur et le sang. En tremblant, je me suis levé, on n'était pas très nombreux debout, il faut le dire. Hein. Mais plusieurs de ceux qui étaient debout, donc on s'est levé tous les deux sans savoir, sans se concerter, on l'a appris après. Et puis d'autres qui sont partis en mission avec nous. Et ça, c'était un jour qui a marqué ma vie. Parce que c'est là où on a reçu vraiment, où j'ai répondu à l'appel de Dieu. Je crois à l'appel de Dieu qui se manifeste de multiples manières pour les uns les autres. Pour certains, c'est très brutal, c'est très direct. Pour d'autres, c'est linéaire, ça se fait dans le temps, c'est plus calme. Hein. Vous savez, Dieu est varié, il est créateur, donc il nous appelle chacun selon nos compétences, selon la façon aussi dont on est capable de supporter, de l'écouter. Hein. Et puis, mais en tout cas, Dieu a un projet pour nos vies. J'aimerais vous dire, Dieu a un projet pour vos vies. Dieu a un projet pour cette Église. Je disais au début, hein, je vais entrer dans le message tout de suite, mais le message que j'ai donné le 1er janvier, puisqu'on avait le culte le 1er janvier au soir, je partageais simplement quelques minutes à l'église, j'ai dit, dans un monde déprimé, dépravé, qui est en train de couler, nous avons un message d'espérance. Et vous qui êtes là ce matin, j'aimerais vous dire que nous avons un Dieu d'espérance. Pas simplement un espoir. Vous savez, il y a une différence entre l'espoir et l'espérance. Hein. L'espoir, on dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais enfin, on n'en est pas sûr. Hein. Mais l'espérance, ça traverse le temps. Hein. Et Dieu, donc, est un Dieu qui nous donne une espérance. Je voudrais vous dire ce matin, quelle que soit votre situation, il y a une espérance. Il y a un avenir pour nous. Il y a un avenir pour toi. Peut-être que tu traverses des moments difficiles, tu traverses, comme le dit la Bible, hein, les vallées sombres ou un tunnel, mais avec Dieu, il y a une issue. Et quand on l'a vécu, on le sait, mais on devient porteur de ça. Et notre monde a besoin de gens qui témoignent d'espérance. Pas d'un vague espoir, hein, comme au primaire, ou des promesses qu'on ne tiendra jamais, non. Le monde a besoin de porteurs d'espoir, pas seulement d'un message, mais un message incarné dans nos vies. Et j'aimerais vous dire, nous, l'Église, aujourd'hui, dans cette période de l'histoire, on a un défi extraordinaire en France. Dieu est en train d'agir dans notre pays. Allô ? Vous êtes là ? Amen. Dieu est en train d'agir dans notre pays. Et on est juste aux prémices, c'est la façon dont on va réagir, répondre à son attente qui va se passer ou non des choses dans les années qui viennent. Ça va devenir de plus en plus difficile, mais on va devoir de plus en plus la gloire de Dieu. Et ça, j'aimerais que vous portiez ça dans votre cœur. Les difficultés sont là, Jésus ne l'a pas caché, tu l'as redit tout à l'heure au moment de la scène, Robert, hein, mais on a un Dieu de victoire. On a chanté, non ? Chantons ta victoire. Hein, on a un Dieu qui nous donne la persévérance pour voir, l'espérance pour voir les promesses s'accomplir. Et j'aimerais encourager votre Église. On est un peuple porteur d'espérance. Amen. Alors, ce matin, l'espérance, ça fait partie vraiment de ce que l'Église doit porter aujourd'hui. Je voudrais vous donner quelques points. J'ai réfléchi. Il y a tellement de choses qu'on aimerait dire à une Église. Et est-ce que tu peux aller sur la diapo suivante ? Ah, tiens, ça s'est tout éteint. Pardon. Je voudrais qu'on vous donne ce matin quelques points sur une vision apostolique de l'Église et que nous soyons un peuple apostolique. J'ai mis une photo hein, vous savez que l'Église vient du mot ecclésia, grec, et là vous avez une photo de la Grèce, hein, enfin pas une photo, une peinture, etc. Donc, ecclésia, on sait que c'est un mot qui est composé en deux, qui veut dire des gens appelés hors d'eux. Hein, ecclésis, en grec, c'est l'appel, ek, c'est hors d'eux. Donc, l'Église, l'ecclésia grec, c'était quoi ? C'était une assemblée, vous voyez, on voit une assemblée d'hommes qui votent, là, à main levée, hein, puisque les Grecs sont les inventeurs de la démocratie, et on voit là-haut des orateurs qui sont en haut. Et donc, l'ecclésia, c'était cette assemblée d'hommes, de citoyens, hein, qui étaient appelés hors de la ville, pour prendre des décisions. C'était le conseil municipal de l'époque, si vous voulez. Hein. Donc, ils étaient non seulement des gens qui avaient qui étaient choisis pour ça, mais ils avaient donc cette capacité d'avoir une autorité, de prendre des décisions. Mais on voit, hein, vous avez à gauche, là-haut, une reproduction de l'acropole, donc on voit que le sens de l'ecclésia, c'était qu'ils prenaient des décisions, mais pas pour eux-mêmes, c'était toujours en rapport avec la vie de la ville, la vie de la cité qui était de l'autre côté. Et donc, nous sommes, notre nom d'église est sorti de cette appellation-là, donc c'était un mot séculier, hein, qui est devenu un mot, dans le Nouveau Testament, un mot religieux en grec, hein, qui a donné la notion d'église. Et si tu peux mettre la diapo suivante, et je voudrais juste partir sur l'une des définitions de l'église que personnellement j'apprécie beaucoup. Hein, vous pouvez lire autant de livres que vous voulez sur l'Église, vous aurez autant de définitions. Mais celle-ci, elle me plaît. Hein. L'Église, c'est quoi? Vous voyez, il y a trois aspects. Un peuple, d'abord, qui vit une relation dynamique avec Dieu. Hein. Tout commence dans notre relation avec Dieu. Amen. Hein, c'est important ce matin qu'on sache que notre vie... Je vous rappelle qu'un culte d'adoration le dimanche, c'est d'abord pour Dieu. Bien sûr, on va être béni par voie de conséquence, hein, mais on ne vient pas chercher au culte, on vient donner d'abord. On vient donner l'adoration à Dieu. On vient lui donner notre reconnaissance. Peut-être on a eu des galères tout au long de la semaine, mais on est debout, on est vivant, on est en santé et on lui doit tout. On l'honore. Amen. Donc, une relation dynamique avec Dieu. Deuxièmement, elle est constituée, l'Église, donc de membres qui s'aiment les uns les autres. Donc, la première relation, elle est verticale. La deuxième, elle est horizontale. Hein, un peuple qui s'aime. Donc, rappelez-vous qu'il est dit dans la première église, hein, il persévérait dans l'enseignement, la communion fraternelle, les prières, la fraction du pain. Donc, ça englobe tout ça. Hein, ça définit tout un panel de relations, de comment on va se comporter les uns avec les autres. Et puis, troisièmement, parce que Jésus nous a laissé sur la terre, il a laissé son église ici, hein, et donc, ce sont des gens qui sont équipés pour accomplir les buts de Dieu sur la terre. Nous avons des buts, une mission à accomplir. Chacun, d'abord dans notre vie, j'aimerais vous dire, chacun, il y a un projet de Dieu pour notre vie personnelle. Ensuite, si vous êtes marié, si vous avez une famille, il y a un projet de Dieu familial. Et plus loin encore, si vous êtes là, si votre famille est là, eh bien, il y a un projet communautaire. Il y a un projet pour l'Église. Et chaque Église locale, elle a une vocation. Dans le livre de l'Apocalypse, on voit que Jésus parle à 7 Églises successives. On voit qu'elles sont, toutes... ressemblantes d'un certain point de vue, mais chacune a sa vocation. Et le Seigneur donne un message à chacune d'entre elles. Donc, nous devons être équipés pour accomplir notre mission ici, notre ministère là, en faveur des autres. Hein, Jésus a dit, je vous serai rempli du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Alors, c'est très large, témoins. Ça recoupe notre milieu de travail ou notre milieu d'études. Ça recoupe notre famille, notre milieu social, là où on habite, là où peut-être on fait du sport, là où on fait des activités associatives, etc. Tout ça, c'est être témoin. Et donc, nous sommes là pour avoir une relation avec Dieu, une relation les uns avec les autres, et nous sommes envoyés vers ce monde. Et tout ça, ça doit être équilibré. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les trois à répartir. Et selon la saison d'église dans laquelle on est, on va peut-être à certains moments plus insister sur un domaine parce qu'on a besoin d'aller là, mais les trois choses doivent être équilibrées. Si tu peux avancer, s'il te plaît. Donc, j'aimerais vous donner ce matin trois points qui m'ont paru vraiment importants sur qu'est-ce que c'est qu'une vision apostolique de l'église. Je vais expliquer les termes parce que souvent, apostolique, c'est un gros mot. Il y en a qui n'osent pas le prononcer. Et premièrement, ça veut dire apostolique dans la Bible, ça veut dire envoyé. Apostolos, qui a donné apôtre dans la parole de Dieu, donc dans le Nouveau Testament, c'était des envoyés, des gens qui étaient envoyés. Donc, on a une église qui a une vision apostolique, c'est une vision qui a conscience qu'elle est envoyée dans ce monde. Nous sommes envoyés de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Donc, on n'est pas sans modèle, hein, on a le modèle. Comment le Père a envoyé son Fils. Donc, c'est important de comprendre que nous sommes résolument avec une mission dans ce monde. Et il y a un mot qui est un peu à la mode parfois dans nos milieux évangéliques, mais on doit être intentionnel. Ça veut dire qu'on sait pourquoi on va faire. On sait qu'on a un objectif, et quand on sait qu'on a un objectif, on va tout mettre en œuvre pour y arriver. Hein? Et notre but, donc, c'est, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Hein, on peut débattre longtemps sur ce que ça signifie. Je n'ai pas le temps ce matin d'aller dans les détails. Mais donc, une intention réellement d'être en bénédiction aux autres. Dans votre lieu de travail, vous êtes l'ambassadeur, l'ambassadrice du royaume de Dieu dans votre bureau ou dans votre usine. C'est vous. S'il y a d'autres chrétiens avec vous, tant mieux, vous êtes plusieurs. Vous allez faire encore mieux. Mais nous sommes des ambassadeurs de Christ partout, là où Dieu nous place. Et c'est là où nous sommes porteurs. Vous savez, il n'y a pas des moments où on est on, et puis là on est on le dimanche matin, puis on est off le reste de la semaine ou au boulot. Non, non, on est toujours on. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est toujours à cran, mais on est en état, on est dans la volonté réellement de refléter la gloire de Dieu. Vous allez me dire, c'est compliqué des fois. Je suis d'accord avec vous, mais nous sommes là pour ça. Et donc, un peuple apostolique, c'est une église envoyée. Je voudrais lire avec vous, je vais arriver au deuxième point, pardon, j'ai eu des chutes. Je voudrais aller sur le point suivant, et on va lire dans notre Bible, dans le chapitre 11 des Actes des Apôtres. Je voudrais vous montrer réellement je reprends un texte que j'ai lu hier matin avec les responsables. On est au verset 19. On sait que dans l'histoire de la première église, je vais très vite, mais il y a eu un grand départ, une explosion de vie à Jérusalem, et puis il y a eu la persécution. Et on nous dit donc que l'église, à un moment, l'église de Jérusalem a été largement dispersée. Et ils sont partis dans les provinces autour. Et puis, acte 11, 19 nous dit « Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. » Et ils n'annonçaient la parole à personne, sinon aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui arrivèrent à Antioche, qui parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et qui se convertirent au Seigneur. Je m'arrête là pour l'instant sur ce texte. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que on voit ici des hommes et des femmes qui ont été dispersés. On parle beaucoup de migrants aujourd'hui. De gens qui arrivent dans notre pays, de gauche, de droite. Et personnellement, j'ai eu en Centrafrique à voyager, à visiter une fois un camp de migrants à l'extrême-est. C'était un moment où il y avait la guerre au Soudan. Et là, j'ai compris, j'ai voyagé, j'ai fait une fois un trajet en camion, dans une benne de camion pendant 6 heures avec une centaine de Soudanais qui venaient dans un camp en Centrafrique. Et là, j'ai compris que ça m'a ouvert les yeux. J'ai voyagé, on parlait en anglais, donc c'était des gens qui étaient anglophones. Et j'ai compris qu'il y avait à côté de moi, dans le camion, des gens qui étaient dans la ville, à Djouba, là, qui étaient des cadres, qui étaient des instituteurs, qui étaient des gens, des chefs d'entreprise, des gens qui avaient, je ne dis pas qui étaient riches, mais qui avaient une situation, qui avaient une maison, qui avaient une famille, qui avaient des relations sociales. Et tout d'un coup, paf, parce qu'ils n'étaient pas de la bonne ethnie ou parce qu'il y avait la guerre civile, ils devaient partir. Et ils devaient sauver ce qu'ils pouvaient, en tout cas sauver leur peau. Ça m'a donné, en restant dans ce camp-là, je suis resté une fois quelque chose comme 24 heures, je me suis rendu compte que ce n'étaient pas des gens qui étaient forcément en train de fuir parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire ou parce qu'ils cherchaient de l'or dans le pays voisin, mais qu'il y avait une réelle condition difficile. Et donc je peux comprendre aujourd'hui ce qui se passe quand on dit qu'il y a des migrants qui passent de gauche et de droite. Après, les motivations sont multiples, on ne va pas débattre là-dessus. Mais ici, ces gens-là, ces premiers chrétiens étaient des migrants. Ils ont été chassés de Jérusalem. Ils ont laissé leur famille, leur maison, leur boulot, leur entreprise, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Mais ils se sont retrouvés donc très loin de chez eux. Et voyez-vous, ces gens-là, il y avait quelque chose qui les avait marqués dans leur cœur. Ils étaient un peuple qui n'avait pas peur. Ils étaient un peuple qui avait vécu la Pentecôte, ou la suite de la Pentecôte, qui avait vécu la plénitude du Saint-Esprit, et même dispersés, même dans des situations précaires et autres, ils ont continué à témoigner de Jésus. Résultat, des églises sont nées. Amen. Et j'aimerais dire que c'est ça la vision apostolique de l'Église. C'est pas, quand on parle de la notion d'apostolique, de prophétique, on voit tout de suite des apôtres, des prophètes, des grands ministères, des superstars, etc. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Ici, on parle d'un peuple apostolique. L'Église dont on parle ici, qui va naître à Antioche, elle n'est pas née d'une grande campagne d'évangélisation, même si c'est utile. Elle n'est pas née du ministère d'un grand apôtre comme Pierre ou Jean ou Jacques. Non, elle est née du témoignage de chrétiens migrants, chassés de chez eux, qui avaient tout perdu, sauf la présence de Christ en eux. Et ça vaut plus que le reste. Amen. Et donc, et c'est ça le but, c'est de former un peuple qui, est cette, qui soit d'abord rempli du Saint-Esprit, avec une vie transformée, et qui, quelles que soient les circonstances, va continuer à être le peuple de Dieu. Et qui va annoncer Christ. Il est dit ici, hein, je vais aller rapidement, mais donc ces gens sont allés très loin à Antioche, c'est 500-600 kilomètres au nord de Jérusalem. Aujourd'hui, c'est à la, hein, aux confins de la Syrie et de la Turquie, c'est plutôt à l'intérieur, c'est la ville, les vestiges de cette ville sont en Turquie, mais juste au-delà de la frontière syrienne. Et donc, ils se sont retrouvés là. Antioche, c'était une grande métropole à l'époque, commerciale. Hein. C'était la troisième ville de l'Empire romain. Et donc, une ville cosmopolite. Et ces gens-là vont d'abord témoigner aux Juifs, puisqu'ils étaient eux-mêmes Juifs de Jérusalem. Et puis, il y en a d'autres qui arrivaient d'ailleurs, qui vont commencer à témoigner avec des gens non-juifs, donc des païens, des idolâtres. Et on a là, à Antioche, la création d'une première église multiethnique, multiculturelle, multi-arrière-plan religieux. Hein, donc, des Juifs et des idolâtres, des païens dans la... d'arrière-plan différents qui se retrouvent dans la même église. Et il est dit, la main du Seigneur était avec eux. Grand fut le nombre de ceux qui se convertirent au Seigneur. J'aimerais vous dire que le peuple de Dieu, de plus en plus aujourd'hui, Dieu nous amène à prendre, j'allais dire, hein, à prendre nos responsabilités. Le but des ministères, c'est de former des gens matures, équipés. Il est dit que Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, etc. Non pas pour eux-mêmes, mais pour perfectionner, pour équiper le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, de plus en plus, on n'a jamais eu autant de moyens de former et d'équiper les gens. Je parle dans l'Église, hein, dans le monde, n'en parlons pas. Hein. Mais donc, on a cette responsabilité d'être un peuple qui attrape cette vision-là et qui va accomplir sa mission, comme on l'a vu tout à l'heure, d'abord, dans une relation dynamique avec Dieu, une relation vivante, pas une religion, une relation vivante avec Dieu, une relation avec nos frères et sœurs, avec la communauté, et une relation là où Dieu nous conduit dans le monde, là où nous sommes actifs. Et c'est important de voir donc cette notion de discipolat et de cette notion de chrétien, de croyant engagé. Hein. Quand on regarde l'histoire de cette Église, on nous dit que pour résumer, hein, donc, l'église de Jérusalem va envoyer Barnabas. Barnabas va aller chercher Saul, un certain Saul qui s'était converti bien des années avant. Les deux vont être ensemble, ils vont travailler, enseigner cette église. Au verset 26, je lis ceci. Hein, pendant une année entière, donc je suis toujours dans le chapitre 11, pendant une année entière, ils participèrent à la vie, aux réunions de l'église. Ils enseignèrent une foule assez nombreuse et pour la première fois à Antioche, les disciples furent appelés chrétiens. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté sur ce texte-là. Pour la première fois, le mot chrétien existe peu dans le Nouveau Testament, trois fois. Le mot disciple y est souvent. Paul, lui, parle des saints, hein, c'est toujours les mêmes personnes. Mais le mot chrétien, au début, était un mot péjoratif. Hein, comme ils étaient toujours en train de parler de Christ, les gens ont dit « Ah, mais c'est des chrétiens hein, !» Comme aujourd'hui, quand vous êtes au parti de machin, vous devenez de son nom avec « ien » ou « ist » à la fin. Donc, et puis, ils se sont moqués d'eux, et puis finalement, le mot chrétien est entré dans la littérature. Hein, mais ce n'est pas eux qui ont dit « C'est nous, les chrétiens !» C'est les gens qui ont vu. C'est les gens qui ont dit « Ces gens-là, ils nous cassent peut-être les pieds, mais il y a quand même quelque chose chez eux qu'on n'a pas. » Et leur Christ a vraiment fait quelque chose de bouleversant dans leur vie. Amen. Quel genre de qualité de chrétien produisons-nous dans l'Église aujourd'hui? Quel type de chrétien sommes-nous? Pas ici. Hein, je vous rappelle, Jésus a dit, soyez la lumière. Le monde, c'est où? C'est là? Non, c'est là-bas. Parce que c'est facile d'être lumière ici. Vous êtes d'accord? Et si on est trop lumière ici, on va être ébloui, on ne pourra plus regarder rien du tout. Mais c'est dehors qu'il s'agit de briller. Amen. Notre champ d'action, c'est là-bas. Ici, on vient, c'est indispensable de venir ici, parce qu'on recharge les batteries. Amen. Parce qu'on est enseigné, parce qu'on progresse les uns avec les autres, la parole de Dieu nous forme, mais le but, c'est de briller dehors. C'est d'être du sel dehors. Amen. Et donc, c'est en ce sens-là que l'Église, elle est réellement cette nature et cette capacité apostolique. Est-ce qu'on peut avancer sur la diapo? Je ne sais plus ce qu'il y a écrit. Voilà, un peuple apostolique. Tu vas sur le 3. des croyants, vous voyez, ces croyants-là ont engendré des percées spirituelles. Donc là, dans une ville, là où ils ont été exilés, mais dans des tas d'endroits, hein, si on lit le Nouveau Testament, si on lit surtout les Actes, on voit qu'ils ont été dispersés à plein d'endroits, que des églises sont nées, que le témoignage est né. Nous sommes faits pour être ce genre de personnes qui créent une percée là où Dieu nous place. Allô ? Vous êtes là ? Et j'aimerais vous donner cette espérance, enfin, ce n'est pas moi qui vais vous la donner, c'est le Seigneur, mettre cette espérance, cette vision dans notre cœur, pour que nos choix, nos directions, j'ai parlé tout à l'heure d'appel, je crois qu'il y a des gens, et ce soit orienté, je crois qu'il y a des gens qui ont un appel particulier dans cette église. Amen ? Il y a des gens qui ont un appel particulier. Certains, ça sera peut-être pour prêcher, pour diriger l'Église, pour se joindre à l'équipe qui est déjà là et puis pour faire avancer. D'autres, ça sera peut-être dans la musique. D'autres, ça sera dans un autre domaine. D'autres, ça sera dans votre milieu professionnel. D'autres, ça sera pour développer une œuvre sociale en dehors ou autre chose, ou dans l'entreprise. On a tous des dons différents. Merci, ma sœur. Amen. Et c'est ça qui doit être valorisé au milieu de nous et que nous devons développer. Et donc, des croyants qui engendrent une percée. On peut réellement, et c'est la volonté de Dieu dans les temps où nous sommes, apporter la vie, apporter l'espérance. Je voudrais continuer un petit peu plus loin. Tu mets la suite. Voilà. Et donc, dans l'Église, qu'est-ce qu'il y avait ? Qu'est-ce qui fait que ces choses peuvent se faire ? Alors, je suis très schématique ce matin, l'enseignement est très long, mais une des clés, c'est une culture de formation, de discipola et de leader. Si tu peux mettre la diapo suivante. J'aime beaucoup cette diapo. Vous avez trois générations ici. Vous avez le grand-père à droite, le papa à gauche et le petit derrière. Vous avez vu le petit, comment il fait ? Ouais. Il est dit que Marc 3, verset 13, nous dit « Jésus choisit 12 hommes pour les avoir avec lui. » Pour les avoir avec lui. Hein, la base... La base du discipola, il y a plein de, évidemment, de choses qui entrent en compte. Il y a plein d'enseignements là-dessus dans la parole de Dieu, mais c'est avant tout être avec lui. Et puis là, il va nous former. Je disais hier Jésus, dans les 3 ans et demi de ministère qu'il a occupé sur la terre, il ne s'est pas occupé de rédiger le règlement intérieur de l'Église, ni même nos statuts, comment ça fonctionne, mais il a formé des hommes de qualité. Et Dieu veut former toujours des hommes et des femmes de qualité. C'est eux qui vont faire les percées, c'est eux qui vont briller. Amen. Et notre rôle, il est là. Donc, former à des niveaux différents, former sur des domaines différents, apprendre aux personnes à connaître leurs dons. Vous savez, c'était au tout début où je suis revenu en France, il y a une dizaine d'années. J'étais dans une église, un dimanche matin. Et il y avait là une dame... une sœur qui avait près d'une quarantaine d'années, que j'avais connue avant de partir, ou pendant un congé missionnaire. Elle me voit à la fin du culte, on se salue, donc une dame institutrice, je crois, enfin, dans l'enseignement. Et puis je lui dis, mais comment ça se fait que tu es dans cette église ? Parce qu'elle était là, j'étais surpris. Et elle me dit, ben, j'ai été obligé de quitter l'église où j'étais avant, etc. Bref. Elle me dit, mais tu sais, il y a quelque chose. Elle me dit, mais je dis, tu fais quoi ? Alors elle me dit, ben, je suis toujours institutrice. Et puis elle me dit, mais c'était une femme qui était douée en théâtre. Elle m'a dit une phrase qui m'est restée, parce que ça m'a crevé le cœur. Elle m'a dit, mais comme je ne peux pas mettre mon don au service de l'Église, je m'éclate dans un club à l'extérieur. Alors c'était bien, elle avait trouvé un endroit où. Mais elle dit, en fait, le message qu'elle me faisait passer, c'est, je ne peux pas m'éclater dans l'Église. Au bon sens du terme. Hein, okay. Donc, j'ai été obligé de trouver ailleurs un endroit où mon don peut vraiment s'exprimer. Ah, j'étais content pour elle d'un côté, parce qu'elle était toujours au Seigneur, et visiblement, elle avait digéré certaines difficultés. Mais dans mon cœur, je dis, mais quelle tristesse de se dire qu'on est, finalement, c'est comme les gens qui s'éclatent au boulot et qui ne trouvent pas leur place dans une communauté chrétienne ou qui n'arrivent pas à faire bénéficier l'Église et le peuple de Dieu de leurs compétences. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit réellement développer, la formation doit nous permettre de nous développer, non pas dans un moule, mais de développer nos différents dons, compétences que Dieu nous a donnés. Et pour cela, pour le servir, vous savez, Dieu ne fait pas de hasard. Quand il nous place dans une communauté, c'est qu'on a un rôle à jouer ici. Avec cette communauté. Et toujours donc dans, à l'intérieur et en direction de l'extérieur. Donc c'est un, je parle vraiment là-dessus, tu peux mettre la diapo d'après. Donc là, on revient sur celle d'avant, s'il te plaît, merci. Former à plusieurs niveaux, hein, donc des disciples d'abord, puis des responsables, puis des leaders, mais que ce soit une culture. C'est-à-dire, c'est quelque chose, encore une fois, que intentionnellement on développe et qu'on fait avancer au milieu de nous. J'aimerais aller sur la dernière partie, c'est le quatrième point, des structures qui permettent la croissance. Est-ce que tu peux mettre... Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça ? C'est une photo très floue. Vous avez ici des pots, ça c'est une photo du désert, c'est une toile de tente qui est derrière, et des pots, ce sont des outres en fait. Dans le désert, hein, ce sont des pots d'animaux qui servent d'outres pour garder le liquide, hein, pour garder l'eau, surtout précieusement le lait parfois quand il y a des chameaux, etc. Et je voudrais simplement, dans cette dernière partie, arriver au cœur de ce que j'ai vraiment à vous dire ce matin. Est-ce que tu peux mettre la diapo suivante ? Ce verset de Jésus. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et volontairement, j'ai mis les deux mots grecs qui correspondent à nouveau et neuf parce que ce n'est pas le même mot. Le mot, rapidement, hein, mais il faut mettre le vin nouveau, ça désigne quelque chose de réellement de nouveau, quelque chose qui est jeune. En fait, ça désigne la jeunesse. Alors que le deuxième mot, kainos, qui désigne les outres neuves, hein, c'est un mot qui veut dire quelque chose d'inédit, qui n'a pas eu de précédent. Une outre nouvelle, inconnue avant et qui vient d'être créée. Ce n'est pas forcément jeune, comme le premier, mais c'est quelque chose qui est sans précédent, qui est non commun, qui est inconnu, qui est inédit. En français, le mot inédit correspondrait mieux. Et Jésus, pourquoi est-ce que Jésus parle de ça ? Je vous resitue juste le verset dans son contexte. Je fais une parenthèse parce que vous allez entrer dans une semaine de jeûne et prière, j'ai appris. Jésus parle de ça au sujet du jeûne, dans le texte. Hein, parce que les disciples sont venus le voir, ils l'ont dit, mais... plutôt les pharisiens sont venus, ils disent, mais Jean a appris à ses disciples à jeûner et à prier, toi tu manges, tu bois, tu ne leur apprends pas à jeûner. Et Jésus dit, mais il viendra un temps où ils jeûneront. Et puis c'est là qu'il dit, on ne met pas une pièce d'étoffe neuve pour rapiécer un vieux vêtement, sinon ça craque et on perd tout. Et puis il dit, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, donc sinon on perd le vin et les outres. Il parle de ça au niveau de la façon de jeûner et prier. Je vous dis ça juste entre parenthèses, parce que c'est important. On ne jeûne pas et on ne prie pas de façon religieuse, ou parce que c'est écrit dans le code des évangéliques, mais parce qu'on sait que c'est un temps de rencontre avec Dieu particulier. Amen. Fin de parenthèse. Et ici, qu'est-ce que Jésus veut nous dire ? Il nous parle de structure. Est-ce que tu peux avancer la diapo ? L'outre, en fait, elle est faite pour quoi ? Pour que le vin se développe. Le vin représente la vie. Hein, et l'outre, c'est le contenant. Les contenants, donc les structures, doivent sans cesse s'adapter au mouvement interne de la vie. Hein, quand Dieu crée la vie, et dès l'instant que la vie est là, Dieu pose des structures pour que ça puisse permettre le développement de la vie, et non l'inverse. Vous me suivez toujours ? Quand Dieu a créé, il a dit Dieu créa les cieux et la terre, il a tout de suite mis en place des structures dans l'univers pour que ça tienne. Et c'est bon parce que ça tient toujours. Et ça a duré pas mal. Hein. Donc, dès qu'il a fait l'homme et la femme, il a créé une structure qui s'appelle le mariage. Pour que ça fonctionne bien et que ça continue et que ça se pérennise, etc. Donc Dieu met toujours des structures, mais les structures sont des principes, elles évoluent avec le temps parce qu'elles sont faites pour faire développer la vie. Je ne pense pas que la Bretagne soit un pays de vin. Je me trompe ? Hein, il y a du bon vin dans le Val-de-Loire ou je ne sais pas où, mais je n'ai jamais entendu du vin de Bretagne. C'est plutôt le cidre et le calva, c'est en Normandie, pardon, mais enfin, des choses comme ça. Hein. Mais mon père avait des vignes. Je sais, donc je suis né à la campagne, mon père avait des vignes. Donc pendant 18 ans de ma vie, j'ai fait les vendanges, j'ai vu comment on faisait le vin. Et le vin, ça fermente, ça travaille. Et effectivement, dans l'ancien temps, on mettait le vin dans des outres et il fallait que les outres soient extrêmement souples. Parce qu'un vin tout jeune, il fermente. Et dans le jargon, on dit le vin, il travaille. Donc si l'outre, elle n'est pas extensible, à un moment, ça pète. Si l'outre, elle est rigide, elle est vieille, craquelée. Donc, dans l'ancien temps, avant les vendanges, tout ça, il fallait faire ce travail sur les outres. Il fallait les laver, les laver profondément pour les nettoyer, et puis les faire sécher. Et puis ensuite, on leur mettait de l'huile pour que ce soit souple. Et on pouvait mettre à nouveau le liquide. Et on pouvait s'attendre à ce que ça gonfle. Aujourd'hui, on n'est plus avec des outres en France, on est avec des tonneaux, hein, il y a bien longtemps. Et moi, je voyais mon père, je l'aidais, parce que c'était moi qui l'aidais à faire le boulot, il fallait prendre le vin nouveau, le verser dans des tonneaux. Et deux mois après, le vin avait tellement travaillé, il fallait d'abord que le tonneau soit bien puisse, bien qu'en bois, il fallait qu'il puisse se dilater. Et puis, au bout de deux mois à peu près, il y avait du dépôt qui n'était pas bon, qui il fallait transvaser dans un autre tonneau. Il fallait faire ça tous les six mois après. Et donc, le vin travaillait. Mais tout ça, c'était pour permettre d'avoir du bon vin. Parce qu'en France, on aime ça. Et qu'est-ce que Jésus nous montre par là? Il nous montre que nos structures doivent être adaptées à la vie et non l'inverse. Si on est là juste pour entretenir les structures, on va sécher. Maintenant, s'il n'y a pas de structure pour permettre à la vie de se développer, ça va se gaspiller. Jésus dit, ça va tout se répandre par terre. Vous suivez? Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle d'église maintenant. Hein, et je crois que, si on veut, si tu peux encore mettre la suivante, je crois qu'il y a quelque chose. Voilà. Les outres représentent les structures d'église. Elles sont le reflet de nos valeurs et de nos principes de vie. Et selon les moments, si nos principes changent, les structures doivent s'ajuster. La suivante, une bonne structure, elle contient sans contrôler. Elle supporte sans imposer. Elle permet à la vie de suivre son cours. Et ce que je crois profondément, hein, c'est que dans les temps où vous êtes dans une évolution de structure. Permettez-moi de dire, puisqu'on va prier pour Marie-Thérèse et Yves tout à l'heure, mais vous avez changé déjà de leadership d'église, ça fait déjà un ou deux ans, je ne sais plus exactement, hein, mais vous êtes dans un changement d'outre. Et il y a eu des structures, des façons, et donc c'est-à-dire toute une manière de fonctionner qui était là et qui était bonne parce que c'était le temps. Et puis, Dieu dit à un moment, si on veut que la vie puisse grandir, il faut changer l'outre. Ce n'est pas changer les gens. C'est changer la façon de fonctionner. Les gens passent, mais c'est la façon de fonctionner, c'est la manière dont on va avancer, et l'outre doit s'adapter à la vie. Amen. L'outre, la façon de fonctionner, les principes de travail vont évoluer, donc, et pour permettre à la vie de se développer. Et je vous partage vraiment ce que j'avais sur mon cœur quand j'ai prié en venant ici, c'est que vous êtes dans une saison particulière. Je crois qu'Yves, tu as été 27 ans, 28 ans, je ne sais pas combien de temps, hein, a été le pasteur de cette église. Et puis, il y a des choses qui ont été mises en place depuis deux ans, trois ans ou plus. Et il y a donc un changement dans ces là. Et il y a une nouvelle saison. Et comme vous le savez, les saisons n'ont pas toutes la même durée. Hein, nous, on est dans un pays où il y a quatre saisons plus ou moins équilibré. Vous allez en Afrique, il y a deux saisons, et puis entre les deux, c'est très court. Vous allez en Israël, le printemps dure trois semaines, quatre semaines, des fois moins. Et donc, il y a une saison intermédiaire où il y a toute une... Dieu refaçonne les choses. Et moi, ce que j'avais à cœur de vous dire, c'est que j'étais hier avec l'équipe de... Enfin, le CE, comme ça que ça s'appelle, le conseil d'église, l'équipe de responsables. Je voyais tous ces gens-là. Et je me souvenais de la première réunion d'église que j'ai faite à Kernoé en 1989, notre premier congé missionnaire, où vous étiez une poignée. Et là, je vois tout ce monde, 20 quelques années plus tard. Et on voit des gens en train de prendre des responsabilités, on voit des gens qui se lèvent, c'est pour ça que je parlais d'appel. On voit toute une dynamique qui est là, et moi je ne vous connais pas, hein, mais quand je vois tout ce monde ce matin, je me dis, waouh, mais quel potentiel il y a là. Allô ? Il n'y a que moi qui crois ça ou quoi? Et Dieu est en train d'agir, vous êtes dans une saison neuve, nouvelle.
Hein, mais souvent, entre deux grandes saisons, il y a des saisons intermédiaires parce qu'il faut, faut garder ce qui est bon de l'ancienne, il faut enlever ce qui n'est plus d'actualité et il faut passer dans le nouveau. Et ça oblige à faire un process, comme on dit. Hein, hein, surtout quand on est là depuis longtemps. Pour les gens qui arrivent, ça, eux, ils débarquent, ils prennent le train en route et ça marche. Mais il y a toute une, il y a toute une transition à faire. Et moi, je voudrais vraiment vous encourager. Parce que c'est un temps où il va y avoir des nouvelles fonctions libérées au milieu de vous. C'est un temps où il y a des fonctions, des on emploie souvent le mot ministère aujourd'hui. Je vous rappelle que le mot ministère, ça veut dire service. Donc, ce n'est pas un titre. Hein, c'est un service. Et de nouveaux services doivent se lever dans votre église, vu le potentiel, le nombre de gens que vous êtes là. Et je vois, on voit que ça tourne. Hier, on a vu quelques responsables, etc. Et donc, il y a des nouvelles fonctions. C'est pour ça que l'importance, c'est former, c'est de préparer les gens. Et préparer et former les gens, c'est développer leurs dons, leurs compétences. Mais en même temps, et très important, c'est développer leur caractère. L'un ne va pas sans l'autre. Pas l'un ou l'autre, il faut nécessairement les deux. Amen. Dieu nous donne le Saint-Esprit, il nous oint pour nous donner des dons, pour exercer, mais il nous donne aussi le fruit de l'Esprit, pour qu'on sache travailler avec les autres, pour qu'on sache s'harmoniser les uns les autres. Hein, c'est cette dimension horizontale dont je t'en parlais tout à l'heure, dans la vie d'Église, pour que ce soit un corps qui avance ensemble. On a chanté « Dieu est une armée hein, », et Dieu sait si une armée, pour réussir, elle doit être unie. En bonne cohésion, hein, sinon ça part dans tous les sens. Donc c'est important, et je crois qu'il y a un changement d'outre, et il ne faut pas vous étonner, vous savez, il y a une image qui est très belle, c'est que les outres que je vous ai montrées tout à l'heure en train de sécher, en fait, elles sont retournées. Quand elles ont contenu un liquide, pour pouvoir les laver, il faut demi-tour. Hein, il faut les retourner, donc des fois, ça fait un peu des nœuds dans notre cœur, ou dans l'estomac, ça dépend, et vous êtes sensible. Mais faut accepter ça pour que on puisse être une autre. Au bout du compte, quand on va être bien lavé, nettoyé, bien oint, une outre inédite. Elle ressemble à celle d'avant, mais elle n'est plus la même quand même, parce qu'elle va accueillir un vin nouveau, parce qu'elle va accueillir une nouvelle dimension de vie. Et ce qui est triste, c'est que si on ne retourne pas l'outre au bon moment, on perd tout. On perd le vin qui devait arriver, la vie, et l'outre ne sert plus à rien. Et j'aimerais vous dire, c'est un temps particulier pour vous, mais moi je suis vraiment étonné, enthousiasmé, voilà c'est le mot, de voir que ce que Dieu est en train de faire avec vous. Allô ? Bon, je veux m'enthousiasmer tout seul. Et je termine en disant, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que le peuple de Dieu est prêt ? Laissez-moi finir, vous direz amen après. Est-ce que vous êtes prêts à vous laisser retourner ? Pour accueillir la vie nouvelle. Vous avez la vie, mais pour accueillir une onction nouvelle, fraîche. Et un débordement de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on prie quelques instants. Seigneur, je crois qu'il y a des personnes ce matin ici, j'ai vraiment deux pensées très claires. Je vous exprime d'abord une qui était là pendant la louange. Je voudrais m'adresser ici à une personne, je pense en particulier. Le Seigneur voudrait te dire, relève la tête. Tu te sens tellement souvent submergé, tu as traversé un temps d'extrême douleur personnelle, de remise en question, et depuis ce temps-là, tu marches comme la tête en bas. C'est comme si tu n'osais plus regarder, si tu n'osais plus lever la tête de honte ou de crainte envers les hommes. Tu sais qui est ton Dieu, tu as vu sa main, il n'y a aucun doute là-dessus. Ton problème n'est pas avec Dieu ou de douter de l'amour de Dieu, non. Tu as avancé, tu as persévéré, tu es en train de sortir ou tu es peut-être sorti de ce tunnel, mais c'est comme si tu n'oses plus regarder tes frères et sœurs, c'est comme si tu n'oses plus lever les yeux vers l'avenir, comme s'il y a quelque chose qui s'est rompu. Et le Seigneur te dit ce matin, réellement, relève ta tête, mon enfant. Parce que ma dignité est sur toi. parce que tu n'as pas à avoir honte, parce que tu n'as pas à, à porter un fardeau ou une culpabilité quelconque. Moi, je t'ai racheté, je t'ai lavé entièrement pour que tu sois entièrement dégagé de tout joug et de tout fardeau. Et sache qu'il y a un avenir pour toi. Sache que même le moment dans lequel tu es passé, dans lequel tu, pour l'instant tu comprends pas encore, tu sais pas en tirer le bon pour l'instant, mais tu verras que ça aussi c'était formateur et que ça va te servir pour l'avenir. Relève ta tête, ose regarder devant, ose regarder en haut, ose lever tes yeux tout à nouveau pour avoir une perspective d'avenir. Ça c'est pour quelqu'un que Dieu veut encourager. Et puis j'aimerais prier. Seigneur, je te remercie, c'est vraiment un privilège pour nous, avec Fabienne, d'être ici ce matin, de voir ce que tu as fait, ce que tu accomplis au milieu de nos frères et sœurs ici, tu vois, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, de voir cette assemblée, de voir tous ces hommes et ces femmes, ces jeunes. Et on veut vraiment prier ce matin pour le temps dans lequel ils sont, pour ce que tu es en train d'accomplir au milieu d'eux, pour parfois les retournements, parfois les choses qui peuvent peut-être faire mal, ou en tout cas qui sont plus comme avant. Mais Seigneur, c'est ton programme à toi, c'est pas le nôtre. Et tu es en train d'agir ici. Et j'appelle ce matin, il y a des personnes ici, je crois que vous pouvez pas... Vous n'êtes pas vraiment spectatrice ou spectateur, mais vous êtes en train de voir, d'observer, et le Seigneur vous dit, mais tu fais partie. Tu fais partie de cette outre neuve. Tu fais partie de cette équipe, on a dit tout à l'heure, de cette armée, dans ce qu'on a chanté, tu fais partie, et le Seigneur vous dit, ça s'adresse à des couples, ça s'adresse à des personnes seules, à des personnes peut-être plus âgées ou des jeunes, tu fais partie de cette nouvelle équipe, tu vas être adjoint, tu vas être utilisé aussi par Dieu dans cette nouvelle outre que Dieu est en train de créer, que Dieu est en train de faire produire. Et ne recule pas, sois vraiment dans le mouvement, parce que tu as ta place, parce que ne te compare pas, cherche pas à savoir si tu es comme ci ou comme tel, mais tout simplement avec ce que Dieu t'a donné. Avec les dons que j'ai mis en toi, tu as ta part. Et Dieu dit, je t'appelle parce que j'ai besoin de toi, je compte sur toi. Gloire à toi, Jésus. Et dans ce passage, dans cette transformation d'outre, je voudrais dire aussi que le Seigneur n'oublie personne, met personne de côté, et qu'il y a eu une outre, il faut célébrer, hein, c'est important de célébrer l'outre qui a été, et que chacun est appelé à entrer d'une manière nouvelle dans la prochaine étape. Il n'y a personne qui est mis de côté. Seigneur, on te prie ce matin. Je bénis vraiment cette église. Je bénis le peuple de Dieu qui est ici, les différentes générations, les familles, les personnes seules, les gens plus âgés, les aînés, comme les enfants. Père, il y a un défi dans cette ville, il y a un défi dans cette région. Et tu as placé cette église ici comme une lumière. Tu as des projets, Seigneur, qui dépassent certainement l'entendement des uns et des autres. Mais tu as des projets non seulement pour Rennes, mais bien plus largement. Et je prie ce matin que tes plans s'accomplissent, que ta volonté s'accomplisse. Je prie pour l'équipe qui est actuellement à la tête de cette église. Je prie que tu leur donnes les bons modèles, les bons plans, les bons timings. Seigneur, que cette église devienne un lieu où beaucoup sont formés, où beaucoup se lèvent pour être envoyés pour des tâches multiples au nom de Jésus-Christ. Je te remercie parce que tu as une vision qui est grande pour cette église et tu te sers des uns et des autres. Je te rends grâce au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.